Les paractualités. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 mai 2017. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette émission Les Paractualités, animée pour vous par Clotilde Seille avec les titres suivants aujourd'hui. Le soutien à domicile, c'est aussi pour les personnes en situation de handicap. Une personne sans papier devient aveugle, faute de soins. Un recueil donne la parole aux aidants naturels et puis le défi santé pour des personnes à mobilité réduite. Également à l'émission, les enfants autistes, le saviez-vous, ils ont 160 fois plus de risques de se noyer. Et on parle de la Russie qui sera de nouveau écartée des Jeux Olympiques, du moins peut-être, c'est avec un point d'interrogation. Deux entrevues, trois même devrais-je dire aujourd'hui, avec André Boily de l'Association québécoise pour l'équité et l'inclusion au poste secondaire, autrement dit l'ACEPS, au sujet d'un colloque qui va se dérouler le 1er juin prochain. Et puis, une double entrevue avec Madame Beaulieu, directrice de la gang à Rambrou, et Sylvie Gravel, trésorière et cofondatrice de Simplicom, au sujet d'un projet qui s'appelle 150 mètres pour l'inclusion sociale. On va tout apprendre grâce à elle. Alors, l'Association du Québec pour l'intégration sociale, l'AQUIS, l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées, l'ACRIP, et la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, la COFAN, accueillent favorablement la tenue par le ministère de la Santé et des Services sociaux d'un forum sur les services de soutien à domicile à Montréal les 25 et 26 mai. Nos organismes ont toutefois déploré auprès du ministre Barrette le fait que le forum soit axé sur les services aux personnes aînées, aux personnes âgées, écartant complètement du coup les personnes en situation de handicap. Le soutien à domicile revêt une importance capitale pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles et leurs proches, car il leur permet d'étudier, de travailler, de recevoir des soins et des services et de participer socialement, tout en demeurant dans le domicile de leur choix. Dans le cadre de ce forum, les PDG des CIS et des CIUS du Québec, de même que le ministre Barrette, seront appelés à prendre des engagements fermes en faveur du soutien à domicile. En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, ces engagements devraient comprendre la bonification du budget alloué aux services de soutien à domicile pour les personnes en situation de handicap, le rehaussement des montants jusqu'à concurrence desquels les services de soutien à domicile sont préférés à l'hébergement en CHSLD ou autres ressources, l'application de tous les aspects de la politique chez soi, le premier choix, une évaluation et un portrait des besoins réels des personnes en situation de handicap et non une évaluation conditionnée par les impératifs de gestion. Face à l'absence des préoccupations spécifiques aux personnes que nous représentons au sein du présent forum, nous espérons que le ministère va mettre de l'avant la mise en place d'un chantier spécifique sur les services de soutien à domicile aux personnes en situation de handicap. Et puis rappelons que plus de 280 000 personnes ayant des limitations ont des besoins non comblés en matière de soutien à domicile et de ce nombre, près de la moitié est âgée entre 15 et 64 ans. C'était évidemment un papier qui nous parvenait de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec. Pardon. À Montréal, un sujet éminemment triste qui nous a été rapporté par Gabriel Duchesne dans la presse. On y parle de Marcia. Marcia, qui est une sans-papiers, qui vit à Montréal depuis près de 30 ans. Elle a enchaîné les emplois de gardienne d'enfants. En 2015, elle est devenue aveugle. Son diabète, difficile à traiter parce qu'elle n'a pas de carte d'assurance maladie, s'est transformée en glaucome. Elle n'a pas eu accès aux soins d'urgence. Et depuis plus d'un an, elle essaie d'avoir accès au service d'un centre de réadaptation spécialisé, Mab McKay, qui refuse de la prendre en charge à cause de son absence de statut. Hier, des organismes communautaires, dont Solidarité sans frontières et des médecins, ont interpellé le maire Denis Coderre pour qu'il intervienne directement, quelques mois après l'adoption d'une déclaration désignant Montréal ville-refuge. « Madame André Boily est de l'Association québécoise pour l'équité et l'inclusion au poste secondaire, qu'on appelle aussi la CEPS. Elle est également étudiante à la maîtrise à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Montréal. Bonjour, Madame Boily.
Bonjour.
Rappelez-moi, vous êtes présidente de cette association?
Non, pas du tout. Je suis chargée de projet.
D'accord.
J'ai ouvert l'association récemment.
D'accord. Alors, écoutez, il va y avoir une journée essentielle, importante, hein, qui est déjà mise sur pied, mais qui aura lieu le 1er juin prochain. C'est donc très bientôt. C'est un colloque qui va s'appeler, si je ne m'abuse, « Du primaire à l'université, le défi des pratiques inclusives ». Parlez-nous un petit peu de cette journée d'études et à qui ça s'adresse et qui sera là.
Oui, tout d'abord, la journée porte essentiellement sur les pratiques inclusives. C'est une occasion de s'informer sur ces pratiques, mais aussi d'échanger. Ça s'adresse évidemment d'abord aux gens qui interviennent auprès des élèves et des étudiants qui sont en situation de handicap ou qui vivent des difficultés dans leur parcours scolaire. Ça peut aussi intéresser des étudiants qui vivent avec ces difficultés, des parents d'élèves, des commissaires.
Oui, oui, oui.
Mais c'est sûr qu'au départ, ça intéresse surtout les professionnels.
Bien sûr. Et les parents, hein?
Et bien sûr, les parents.
Hein, d'accord.
Dans une certaine mesure, oui. Et comme je vous dis, bon, c'est une occasion pour les professionnels autant de s'informer auprès de différents acteurs, par exemple des chercheurs universitaires, mais aussi des étudiants qui ont vécu des parcours atypiques.
Oui.
Qui partagent leur expérience, aussi différents organismes qui vont nous démontrer en fait ce qu'ils ont mis sur place.
D'accord.
Sur pied, pardon.
Mais non, sur pied, oui, non, j'avais bien compris. OK. OK. Et on parle donc de pratiques inclusives en éducation.
Oui.
Qu'est-ce qu'une pratique inclusive en éducation? J'imagine que vous avez des exemples à nous donner.
Oui, tout à fait. Il faut comprendre qu'à la base, la valeur d'équité nous amène à mettre en place des mesures d'accommodement pour garantir l'accès et la réussite éducative des élèves et des étudiants en situation de handicap.
Oui.
Mais l'inclusion à proprement parler, c'est une vision particulière qui implique que ces élèves, ces étudiants sont inclus au même titre que les autres dans les activités scolaires.
OK.
Donc,
d'accord.
Il n'est pas question ici de classe spéciale, d'un accompagnateur
non.
qui prend la place de l'enseignant. On parle
d'accord.
d'inclusion seulement si l'élève ou l'étudiant fait partie à part entière de la communauté
d'accord.
éducative.
Par exemple, ce serait quoi une pratique inclusive en éducation?
Par exemple, qui toucherait l'évaluation des apprentissages, ce serait d'offrir plusieurs façons de réaliser un travail.
Mm-hmm.
Donc, si on évalue dans un grand local d'examen, en imposant des limites de temps, on ne permet qu'un type de bonne réponse, on crée un contexte qui défavorise les élèves qui ont besoin d'être seuls, besoin de
oui.
pause. Par contre, si on offre un choix de questions, on offre de réaliser le travail à la maison plutôt qu'en situation d'examen, on offre l'option d'une réponse orale ou écrite,
oui.
à ce moment-là, on évite ces différentes formes de discrimination.
Je vous comprends très bien. Hein? Il me semble que là, tout doit être très clair. Dites-moi, Madame Boily, où en est la situation dans le système scolaire québécois?
Il faut comprendre que le système d'éducation québécois, c'est très gros. Ça implique tous les ordres d'enseignement
oui.
partout au Québec. Bon, par contre, ce qu'on sait, c'est que les élèves et les étudiants qui ont des besoins particuliers sont de plus en plus nombreux et que les ressources ne suivent pas nécessairement compte tenu de la restructuration budgétaire. Et c'est sûr que les pratiques évoluent lentement. Donc, bien qu'on fasse la promotion des pratiques inclusives, ça prend du temps avant que ça se traduise dans une évolution des pratiques directement en classe.
Je comprends. Et les principaux obstacles, c'est quoi? C'est l'argent? Ce sont les préjugés? C'est le manque de formation du côté du personnel? C'est tout ça en même temps?
C'est un peu tout ça en même
c'est
temps.
C'est ça. Toutes ces réponses sont bonnes, quoi.
Une chose qu'on ne sait pas nécessairement, c'est que l'accessibilité physique est encore un obstacle dans certains cas.
Ah oui.
Donc, l'accès à certains locaux de cours, littéralement, est encore un enjeu. Bon, aussi, beaucoup d'enseignants et de professionnels demandent plus de formation sur des sujets plus précis. On dit souvent manquer de ressources, de matériel. Il faut savoir qu'il y a certains postes, notamment les orthopédagogues, les techniciens et techniciennes en éducation spécialisée et les orthophonistes on en a grandement besoin.
Mais oui.
Et parfois, c'est l'organisation même des études qui pose problème. C'est-à-dire que, par exemple, le délai pour compléter un programme, l'offre de cours, l'impossibilité, dans certains cas, d'être à temps partiel à ces études, ce sont des obstacles.
Exactement.
Bon, et évidemment, toutes les solutions qu'on peut proposer vont demander un certain financement. Donc,
oui,
on ne se sort pas de l'obstacle
oui, monétaire, hein, évidemment. Bon, revenons à ce 1er juin. L'objectif, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous souhaiteriez qui ressorte de ce colloque-là, Mme Boily?
Ce qu'on souhaiterait, c'est, par l'entremise de notre colloque, qu'il y ait des échanges entre des professionnels pour qu'on puisse, d'une part, on souhaiterait bien sûr que ces enseignants, ces professionnels développent des pratiques de plus en plus inclusives. Mm-hmm. Ce qu'on souhaiterait aussi, c'est de poursuivre un dialogue là, qui est amorcé, qui est déjà bien amorcé au Québec.
Oui.
Pour pouvoir faire un état de la situation
oui.
du point de vue des gens qui se présentent au colloque
mm-hmm.
et éventuellement de pouvoir suggérer des nouvelles solutions, mais qui sont informées de l'avis des gens qui travaillent sur le terrain directement, donc des enseignants de tous les ordres, des gens là, qui connaissent les contraintes du terrain.
Bon, bah, écoutez, tout un programme hein, et vous allez avoir des gens très qualifiés autour des différentes tables. J'ai la liste sous les yeux. Là, ça devrait donner lieu à de belles discussions. C'est du moins ce qu'on souhaite. On peut s'inscrire? Il faut s'inscrire?
Oui, on a retenu le service du site Internet Eventbrite.
Okay.
Si vous cherchez le nom de l'association, donc AQEIP comme papa et S à KEPS, sur le site, vous allez trouver notre événement. Et l'événement est gratuit,
c'est
complètement gratuit. On fournit même le dîner, les collations.
Mon Dieu, en effet. Alors, ruez-vous là, inscrivez-vous. C'est le mot d'ordre un petit peu que j'ai envie de donner à tous nos auditeurs. En ce moment, ça aura lieu le jeudi 1er juin. Et quand même, détail important, ça se passe où?
Oui, ça se passe au pavillon Athanase David de l'UQAM, au local DR200. On sera bien sûr à l'entrée pour accueillir nos invités.
À quelle entrée? Parce que à l'UQAM.
Au 1430 rue Saint-Denis.
Au 1430 rue Saint-Denis. Mais écoutez, je pense que là, on a toutes les informations, Mme Boily. Je vous remercie beaucoup de nous avoir informés sur ce colloque très, très important qui aura lieu, je le rappelle, le 1er juin prochain. Je vous souhaite une belle journée puis un bon colloque, alors.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Au revoir. Une nouvelle trouvée dans le courrier du Sud, c'est M. Jean Laramé qui écrit que l'organisme Action Service de Longueuil a lancé ce lundi son projet « Parole d'aidant », un ouvrage rassemblant plusieurs textes provenant d'aidants et ex-aidants naturels. Une quinzaine de participants, composés majoritairement de proches aidantes, ont assisté au lancement du projet en présence de la députée de Taillon, Mme Lamar, Diane Lamar, et de l'auteur et marraine du projet, Marie Diotte. Sélectionnés par un comité de lecture, les textes du recueil seront en grande partie issus des ateliers d'écriture donnés par l'association et animés par Mme Diotte. La directrice de l'association, Francine Sidulotte, a précisé que ce projet permettrait aux familles de mieux comprendre ce que peut être le quotidien des aidants. Cette situation peut arriver à n'importe qui, soudainement, et personne n'y est vraiment préparé, a-t-elle ajouté. Entièrement subventionné par le gouvernement, le projet a été défendu par Mme Lamar, qui a tenu à leur rendre hommage. L'auteur Marie Diotte a livré un témoignage poignant et partagé quelques extraits de son livre dédié à son défunt mari. « J'ai passé 43 ans avec Gilles, dit-elle. Je suis devenue ses bras et je l'admirais tellement pour tout ce qu'il entreprenait. En tant que femme et conjointe, il est vrai qu'on a du mal à se considérer comme aidante naturelle. L'écriture a été ma thérapie. » Depuis la mise en place des ateliers d'écriture il y a un an, les membres de l'association ont effectivement pu constater les répercussions positives de l'écriture et du partage des textes sur les participants. La ZAPAL donne la possibilité à des aidants de Longueuil de soumettre des textes pour le futur recueil. Les personnes intéressées pourront faire parvenir leur production, un maximum de 500 mots, au plus tard le 15 juillet prochain à l'adresse suivante, 2160 Bureau 95, Chemin du Tremblay, à Longueuil, le code postal est le J4N1A8 ou encore par courriel, c'est encore plus simple. Activité, évidemment sans accent à activité avec un S, @azapal.org, azapal, A-S-A-P-A-L.org. La publication du recueil d'environ 150 pages est prévue pour la mi-septembre. Et puis, le défi santé pour des personnes à mobilité réduite, le réseau Autonomie Santé, on a pris cette nouvelle dans la nouvelle.net, a permis au Victoria Villois, Denis Laliberté, de prendre part au défi santé de Plessisville, qui a eu lieu jeudi soir de la semaine dernière, au carrefour de l'érable. Bien installé dans sa joëlette, il était accompagné d'Alexandre Beaulieu, représentant de l'entreprise New Balance, et de Dominique Lapointe, de Tôle Art Desperado, et conseiller municipal de Amnord. Tous les profits amassés lors de l'événement seront redistribués afin de promouvoir les saines habitudes de vie chez les jeunes. Une partie des fonds amassés servira à financer la participation de la polyvalente La Samar au défi au Pierre-Lavoie, et l'autre partie des profits sera distribuée aux 4 écoles primaires de la ville de Plessisville pour l'achat de matériel d'éducation physique. Le Iron Ben est un événement de course à pied annuel au profit de Fibrose Kystique Québec, et la 6e édition se tenait le samedi 20 mai au parc Saint-Maurice de Shawinigan. C'est la dernière entrevue que je donnerai dans notre studio ici sur René Lévesque, parce que nous déménageons en fin de semaine et puis on s'est dit, tiens, on va se payer la traite, ce ne sera pas une mais deux personnes et qui seront en studio en plus. Bonjour Madame Beaulieu, Suzanne.
Bonjour.
Je voudrais rappeler que vous êtes directrice de la gang à Rambroux, on vous connaît bien, on vous a souvent au bout du fil et même parfois en studio, et on va faire connaissance avec Madame Sylvie Gravel. Vous êtes trésorière, fondatrice, Madame Gravel, de Simplicom. Comme on vous connaît un petit peu moins, j'ai envie de commencer par vous. Qu'est-ce que Simplicom?
Bonjour.
Bonjour, Madame.
Simplicom, c'est un organisme qui a été fondé en 2009.
Oui.
Et nous sommes une équipe multidisciplinaire. Nous avons développé la méthode du texte simplifié avec un groupe de recherche de l'Université Laval, le groupe Défi Accessibilité,
mm-hmm.
avec les professeurs Jacques Langevin et Sylvie Roque. Donc, le texte simplifié, c'est une méthode pour écrire, rendre des textes standards plus faciles à lire et à comprendre.
Et à comprendre.
Et la méthode est basée sur les capacités des personnes qui ont des incapacités cognitives.
OK.
Et sur leur contexte de vie, leur capacité de comprendre.
Très intéressant.
Oui, c'est bien, oui. Et tout ce que nous faisons, nous sommes donc une équipe multidisciplinaire, orthopédagogue, mm-hmm. traductrice, éducatrice spécialisée, sociologie.
Mm-hmm.
Donc, et aussi, on travaille avec les lecteurs qui ont des incapacités intellectuelles. Donc, c'est un travail pour eux. Ils sont rémunérés et ils testent tout ce que nous faisons. Donc, on assure ainsi une qualité de l'impact
D'accord.
de ce que nous faisons.
Alors, on va reparler de tout ce que vous faites. Avant, je voudrais donner la parole à Madame Beaulieu, Suzanne. Vous êtes donc directrice de la gang à Rambroux. Mm-hmm. Au cas où il y a encore quelqu'un qui nous écouterait sur Canal M, qui ne vous connaîtrait pas, rapidement, rappelez-nous la mission de votre organisme.
La gang à Rambroux, on offre des activités en art aux personnes qui ont un handicap intellectuel ou un trouble du spectre de l'autisme. On a un programme socio-professionnel où les gens apprennent un métier à travers la construction de décors, costumes, théâtre. Nous avons aussi des productions artistiques en art de la scène, en musique.
Passionnant, oui.
Voilà.
Alors, vous avez décidé de monter un projet ensemble.
Oui.
Un projet dont le titre est 150 mètres pour l'inclusion sociale, et ça s'est déposé dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, et ça a été accepté.
Oui.
Qui m'en parle? Madame Beaulieu? Ouais, Madame Gravel?
Je vais commencer, puis
D'accord.
Sylvie va poursuivre.
Parfait.
Ben,
qu'est-ce que c'est, oui?
Ben, nous, on trouvait important que soit souligné le travail de personnes qui ont marqué l'inclusion sociale au Canada. 150 pour 150e.
D'accord, mais 150, bien sûr. 150 mètres, oui.
Oui, 150 mètres qui proviennent de tous les milieux. Ça peut être autant des personnes qui ont un handicap intellectuel, autiste, chercheurs, parents, intervenants, artistes. On voulait vraiment que ces gens-là ressortent, puis que les personnes qui ont un handicap intellectuel aussi connaissent qui a fait en sorte Oui. Que le Canada devienne plus inclusif oui. à leur égard.
Oui, parce que vous avez raison de le dire, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire et si beaucoup d'organismes sont abandonnés à eux-mêmes, il ne faut pas oublier que si on en est là où on est, c'est parce qu'il y a des gens fantastiques qui ont œuvré et qui continuent d'œuvrer pour venir en aide à tous les gens qui vivent avec une incapacité, quelle qu'elle soit. Je me tourne vers vous, Madame Sylvie Gravel. Oui. Alors, parlez-nous un peu plus précisément. Ce sera quoi, ce projet-là?
Alors, le projet, c'est d'abord une collecte à travers tout le Canada, les 10 provinces et les 3 territoires canadiens. C'est une collecte de biographies, de petites biographies, à peu près 10 à 12 biographies par territoire, par province, des personnes qui ont contribué à l'inclusion de ces personnes qui présentent une déficience intellectuelle ou un trouble de l'autisme.
D'accord.
Et avec ces biographies, on va réaliser une série de 150 capsules avec le texte de la biographie, avec une photo et des témoignages. Ou
donc
des...
visuel, on parle de vidéo.
De vidéographie visuelle, oui. Ouais. Et ça, c'est une partie du projet, donc la série des capsules, mais tout ça va être aussi présenté en livre. Il y aura un livre imprimé et il y aura le livre numérique aussi.
Oui.
Et tout ça en anglais, en français. Parce que
Parfait.
Nous sommes au Canada. Et il y a aussi le livre imprimé dans les textes standards sera transposé en texte simplifié.
D'accord.
Pour que les personnes
parfait.
Elles-mêmes,
justement.
Faisons exemple, aient accès à l'histoire
bien sûr.
D'un patrimoine
bien
extraordinaire
sûr.
Dont on ne parle jamais. C'est quelque chose d'inédit d'une certaine façon.
D'accord. On pourra voir ça où, Madame Gravel?
Ça va être mis en onde par, avec différents réseaux de mise en ligne. Je ne sais pas si.
Donc, Suzanne, ça va être sur Internet, Madame Beaulieu?
Ça peut être sur Internet. On va faire un lancement officiel en janvier 2018.
D'accord.
Qui va être la fin de ce projet-là. Alors, on va faire vraiment un lancement. Les chanteurs de la gang Arambrou préparent une chanson aussi
oui.
pour parler de ces 150 mètres-là. Alors, voilà, ça serait... et là, la manière de diffuser, on n'en a pas encore...
Encore parlé, mais est-ce que...
Oui, on commence.
J'espère que les médias vont se rallier. Bon, nous, on sera là, c'est sûr, mais, mais d'autres aussi pour souligner ça. Vous vouliez rajouter quelque chose d'important, je pense, Madame Gravel.
Ce que je voulais dire, c'est que il y aura plusieurs plateformes
bien
en fait,
sûr,
de
bien
diffusion.
Sûr, d'accord.
Et c'est sûr que la série, il y a la série des 150, mais il y aura possibilité de scinder aussi cette série-là. Hein, elle sera quand même disponible de façon...
D'accord, individuelle, on pourra...
Individuelle
c'est
et
ça.
Tout ça, donc très, très maniable.
Mais
très
ce sera pas facile de faire un choix. Hein.
C'est un gros projet, oui.
C'est un gros problème, parce qu'on ne veut pas faire de mal à personne.
Oui,
non.
Au Québec, juste à nous deux, on en a trouvé 31.
Ilala, oui. Oui. Puis alors, nous, on en aurait quelques-uns aussi, dont on pourrait vous parler.
Oui.
Alors, imaginez, oui, effectivement, ça représente beaucoup de monde. Mais quelque part, c'est un beau problème. Parce que, ça, encore une fois, ça veut dire qu'il y a des gens qui bougent. Madame Beaulieu, donc, ça, c'est... J'imagine que c'est le gros projet en ce moment pour la gang Arambrou ou vous avez vous-même d'autres projets en ce moment?
Bien, il y a notre spectacle en juin sur Edith Butler, sur
oui.
la résilience.
Oui.
On va avoir une autre entrevue. On a déposé un projet au ministère de la Famille, Sylvie et moi, pour développer un programme sur l'intimidation.
Ah,
nos personnes sont les plus grandes victimes, je dirais.
Absolument.
Alors, on attend, on va le déposer, là, c'est pour la fin juin.
Rappelez-nous si des gens sont intéressés par le travail que vous faites, et l'une comme l'autre. Madame Gravel, Simplicom, on peut vous joindre comment? On peut, si on a des parents, par exemple, d'enfants qui vivent avec cette difficulté-là ou qui sont eux-mêmes aux prises avec... Comment est-ce qu'on vous joint, Madame Gravel?
Il y a différentes façons, en personne.
Oui. Non, mais je veux dire, est-ce qu'on peut vous joindre d'abord par Internet?
Par courriel.
On fait quoi? Est-ce qu'on fait Simplicom, simplement, pour vous trouver?
Oui, simplicom.org.
Bon,
on a
facile.
Un courriel, on a le téléphone.
Bien sûr.
Il y a toutes les façons.
Bon, mais Simplicom, je voudrais peut-être, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, c'est les plaies, c'est simple comme bonjour.
Oui, S-I-M-P-L-O-M.
P-L-I-C-O-M.
Oui. P-L-I-C-O-M. C'est ça, d'accord. Simplicom. Parfait. Et puis, Madame Beaulieu, on vous trouve facilement aussi, hein, la gang à Rambrou, oui.
RAMBRAOU.ca.
D'accord.
Oui. Et puis, c'est, on a aussi notre courriel, puis mm-hmm. au 438-333.
Mais là, j'imagine que s'ils arrivent à aller sur le site, après, sur oui. le site, pardon, là, les oui. gens peuvent rapidement oui. vous contacter. Madame oui. Gravel, vous vouliez ajouter quelque chose?
Je voulais vous remercier.
Ah, ben c'est gentil, mais non, je vous en prie, je vous en prie. On a même pris un petit peu plus de temps, mais c'est oui. pas grave, parce okay. que je trouve que c'est un beau projet, Madame okay. Gravel.
Et oui. merci aussi à la Fondation du Grand Montréal pour d'avoir
accepté
notre projet.
Eh bien, merci à beaucoup à vous deux de vous être déplacés, Madame Beaulieu.
Merci beaucoup.
Bon été à la oui. gang à Rambrou. Continuez votre beau travail. Et puis, Madame Gravel, je suis ravie d'avoir fait connaissance avec Simplicom. Et on croise les doigts, on vous souhaite que tout se passe bien. Et on a bien hâte à janvier 2018, même si ce sera l'hiver, pour savoir où ça en est. Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Au revoir. Le saviez-vous, comme l'été approche, une femme nous fait savoir dans Le Soleil qu'elle a inscrit son fils de 9 à 11 ans, à 11 leçons de natation d'une demi-heure au centre récréatif de son quartier pour la modique somme de 418 $. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que les enfants autistes sont 160 fois plus à risque de noyade. Alors, elle nous demande pourquoi est-ce si cher? Eh bien, c'est parce que mon fils est atteint d'autisme, le trouble neurodéveloppemental le plus fréquemment diagnostiqué au Canada. Il n'est pas capable de suivre les cours de natation réguliers offerts à une fraction de ce prix. L'environnement des piscines est trop stimulant pour lui. Alors, une nouvelle étude vient de confirmer ce que toute la famille d'enfants autistes sait par oui dire. Le risque de mort accidentelle par noyade est élevé chez les autistes. Afin de déterminer s'il existe effectivement un lien entre l'autisme et les décès par blessure, des chercheurs du Center for Injury, Epidemiology and Prevention à l'Université Columbia ont recensé plus de 39 millions d'actes de décès couvrant une période de 16 ans jusqu'en 2014. Ils arrivent à des conclusions plutôt tristes. Les personnes atteintes d'autisme meurent en moyenne presque 36 ans plus tôt que les membres de la population générale. Près de 28% d'entre elles décèdent prématurément des suites d'une blessure. Selon les chercheurs, près de la moitié, 46% des décès consécutifs à des blessures non intentionnelles chez les personnes atteintes d'autisme sont attribuables à une noyade. La période dangereuse se situerait entre l'âge de 5 à 7 ans. Chez les enfants autistes, le taux de noyade est 160 fois plus élevé que chez les jeunes qui ont un développement typique. C'est un chiffre absolument renversant. Alors, l'un des problèmes qui se présente chez les jeunes autistes est leur propension à se sauver. À cause des stimuli agréables, visuels et sensoriels que l'eau procure, ils sont très souvent attirés par elle. Ils sont en outre susceptibles d'avoir des habitudes de sommeil irrégulières, ce qui signifie qu'ils peuvent se réveiller, prendre la clé des champs pendant que le reste de la famille dort, et pourquoi pas rentrer dans une piscine tout simplement. Alors elle dit, cette femme, travaillons ensemble pour éviter d'inutiles tragédies et passons un bel été en toute sécurité auprès de nos plans d'eau. Alors voilà, c'était la dernière émission des Paractualités présentée dans notre studio de René Lévesque. On se retrouve sur la rue Sherbrooke d'ici quelques jours. Laissez-nous faire nos boîtes et les déballer. Merci à toute mon équipe, c'était Clotilde Say. Bonne journée.